Ici Annie Quentin, aujourd'hui notre invitée, Marie-France Guénette.
Bienvenue à Facteurs humains, le balado. Pensé et réalisé par la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval, cette chaîne vous fait entrer dans les coulisses de la recherche et de la création pour y rencontrer des passionnés de la découverte. D'épisode en épisode, sur le mode de la vulgarisation, jetez un regard nouveau sur le monde avec nos invités, découvrez les questions qui animent leurs projets, voyez tout l'impact des lettres et des sciences humaines sur la société et le savoir.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Isabelle Claire, notre co-animatrice.
Bonjour Annie.
Bonjour Marie-France Guénette, notre invitée à cet épisode de Facteurs humains le balado.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation, Marie-France. Marie-France, vous êtes professeure et chercheuse au département de langue, linguistique et traduction. Et vos travaux actuels s'intéressent à la traduction, bien sûr, à l'histoire de la traduction que vous envisagez dans une perspective transnationale, transculturelle. Avant d'aborder vos projets, dites-nous un petit peu, expliquez-nous, qu'est-ce que votre discipline? Qu'est-ce que la traductologie?
La traductologie, en fait, ça prend comme objet d'étude la traduction et toutes les facettes du domaine. Donc, on peut s'intéresser à la traduction comme le transfert d'un texte ou d'un message. La traduction, c'est le message écrit, hein, d'une langue à une autre. Ou encore, on peut s'intéresser à l'interprétation, qui est ce même transfert, ce même message, mais à l'oral. Donc, la réalisation du transfert en tant que tel se fait différemment. Mais la traductologie, c'est aussi donc la réflexion sur la traduction. Donc, on peut parler des questions qui touchent à l'histoire, justement, mais la pratique, la profession. Puis, toutes les questions qui touchent aux enjeux, comme les enjeux sociaux, politiques, idéologiques, culturels, on peut y aller vraiment dans n'importe quelle facette. Puis encore, en traductologie, on voit, il y a l'objet qui est la traduction. Donc, mettons un livre traduit. Il y a le processus de la traduction, donc soit écrit ou oral, puis il y a encore le traducteur lui-même ou la traductrice, donc l'agent qui évolue dans ce domaine, puis encore, en fait, tout ce qui touche à tous ces échanges-là. Donc, on peut même subdiviser la traduction comme une réflexion sur le texte source qu'on appelle le texte cible, la relation qu'ils ont entre les deux. On peut parler de l'évolution d'une traduction sur une longue période de temps, donc des études longitudinales sur, mettons, la retraduction. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, traduire la Bible? Traduire un message qui a une portée idéologique, culturelle, politique.
Qui est déjà chargé.
Super chargé. On peut parler aussi d'intraduisible. Par exemple, si on traduit le Coran, on dit pas que c'est des traductions du Coran, on parle de commentaires sur l'original. Donc, il y a toute la conception de la traduction selon les cultures, selon le statut, mettons, canonique ou pas du texte en question. On s'entend que les questions ne sont pas les mêmes si on parle de traduire justement la Bible ou traduire un court message pour son propre billet de blog sur les recettes. Là. Donc, il y a toutes sortes de niveaux.
Vous parlez aussi bien de la personne qui traduit que du document qui va être traduit. Est-ce que vous étudiez aussi en traductologie le récepteur?
Oui, le lecteur ou la personne qui reçoit, en fait, on parle de réception, absolument. Est-ce qu'on parle tant, mettons, du récepteur? Je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas vraiment comprendre, on ne sait pas exactement, on ne peut pas se mettre dans la tête là, de la personne qui reçoit la traduction. Du point de vue du traducteur, de la traductrice, mettons, comme je suis, ou de la chercheuse, je peux, mettons, faire des sondages ou faire une enquête pour voir comment les gens ont perçu un texte, mais l'interprétation, c'est tellement, pas l'interprétation dans le sens de la traduction, mais la perception qu'on a d'un texte ou d'un message, c'est tellement personnel qu'on ne peut pas en faire une généralisation. Cela dit, si on pense à des enjeux, des questions culturelles récentes, si on pense, mettons, il y a eu tout un scandale récemment avec l'émission Squid Game qui était sur Netflix. une émission coréenne qui a été super célèbre. Puis, à mesure que les gens l'écoutaient, les sous-titrages ont été questionnés. On se demandait, ben, c'est pas vraiment ça que ça dit. Pourquoi ils ont traduit ça comme ça? Puis après ça, là, ça a explosé. Mais on paye pas assez les sous-titreurs. Donc là, il y a des enjeux, c'est ça, financiers. Puis c'est vrai, dépendamment des domaines, les traducteurs sont pas tous payés. Les traducteurs ont pas nécessairement non plus une formation professionnelle dans chaque domaine. Donc, on peut parler de, dans le fond, n'importe quelle personne qui écoute une série doublée ou sous-titrée sur Netflix devient un récepteur, quelqu'un qui reçoit un message traduit. Il y a vraiment toutes sortes de manières d'aborder la question.
Et qu'est-ce qui vous a mené à choisir cette discipline-là? Quel est votre parcours, Marie-France?
Moi, j'ai grandi, je viens du nord de l'Ontario. J'ai grandi dans une situation francophone minoritaire. Donc, j'ai toujours évolué dans les deux langues. Puis, je passais mes étés aux États-Unis chez ma grand-mère, qui, elle, mes grands-parents, en fait, qui sont européens. Donc, mes grands-parents qui parlaient chacun 5-7 langues. Mon grand-père est d'origine hongroise, ma grand-mère italienne. Donc, j'ai grandi dans le linguisme culturel, etc. Pour moi, ma vie entière a été construite dans ce milieu charnière entre deux culture. J'ai grandi en pensant, quand je parlais anglais, je me disais, est-ce que je communique bien ce que j'essaie de dire parce que je pensais en français? Quand les gens recevaient mon message, ils me disaient, ben, pourquoi tu parles comme ça? Ou pourquoi tu as cet accent-là? Ou comment ça se fait que tu dis que tu parles anglais, mais tu connais pas ce mot? Pourquoi on connaît pas un mot? Donc, j'ai grandi vraiment toujours à ce croisé-là des chemins linguistiques, si on veut. Puis j'ai vécu ensuite en Espagne, en République tchèque. J'ai appris l'espagnol, j'ai été au pair en Espagne. J'ai enseigné le français, l'anglais dans des écoles de langue à Prague. J'ai décidé de devenir traductrice parce que je pouvais pas m'imaginer faire autre chose.
C'était naturel, ça allait de soi.
Toute ma conception identitaire et ma perception du monde est conçu sur cet axe de deux langues ou plusieurs langues ou plusieurs cultures. On appelle des gens comme moi des amphibiens culturels. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont s'identifier à ça. C'est cette idée de pouvoir évoluer équitablement ou être perçu comme étant aussi adapté à une culture qu'à une autre. Puis cette notion me fascine et me hante en même temps. Mm-hmm.
Pour des étudiants qui vont écouter le balado, vous parlez beaucoup de culture, vous parlez pas que de langue. Pourquoi on met ça toujours dans le cadre de la culture?
La traduction, dans le fond, ça a une vocation très pratique, hein, on s'entend, on veut communiquer un message. Donc, ça peut être un message ponctuel, un message d'urgence du gouvernement, un message à la télé, les nouvelles, etc. Mais une conception identitaire est intrinsèquement liée à la culture. On peut pas, si on se dit, avec ma maman, je parlais de telle chose, avec ma grand-mère, j'ai parlé de telle chose, avec mon père, comme... Notre conception de nous-mêmes est basée sur cette relation entre la langue et, en fait, tout ce qui vient avec. Les chansons, les livres qu'on a lus, les émissions qu'on écoute à la télé, les relations qu'on développe avec des amis, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut diviser ça? À mon sens, c'est impossible. Donc, pour moi, la culture, c'est tout ce qui nous entoure, c'est tout ce qui entoure la langue au-delà de la base de la communication de « bonjour, je m'appelle » ou « oui, j'aimerais prendre l'autobus ». Quand on passe le cap de ça, bien, on est rendu dans apprécier une langue, apprécier une culture, comprendre les gens, vouloir échanger avec les gens. Donc,
c'est pour ça que vous parliez de tout à l'heure d'un film coréen où quand au Québec, on entend une traduction faite par un Français de France avec de l'argot français. C'est là qu'on voit tout le choc culturel, même si on parle en français. Là.
Absolument, absolument. Puis dans mon parcours, on parlait, donc j'ai fait mon baccalauréat en traduction en C'était langue linguistique, langue et littérature française et traduction. À l'Université McGill, le programme n'existe plus exactement de la même façon, là, mais une des professeurs là-bas, Annick Chapdelaine, s'intéressait beaucoup aux traductions de Maria Chapdelaine. Par amour, juste un peu comme ça, là, avec son nom. Il y avait une traduction portugaise de Maria Chapdelaine qui avait été faite au Brésil. Et puis, elle nous avait conté cette anecdote, puis ça m'est toujours resté parce que ça démontre tout le potentiel et tout l'absurde de la traduction quand on fait traduire quelque chose par quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement notre culture. Donc, Maria Chapdelaine a été traduite en portugais brésilien, et puis Maria Chapdelaine s'est écrite en français, mais au Québec. Donc, on utilise... Par un français, mais on dit quand même le déjeuner, le dîner, le souper. On ne dit pas petit déjeuner, déjeuner, dîner. Donc là, le traducteur ne savait pas qu'au Québec, on disait déjeuner, dîner, souper. Donc, dans la traduction de Maria Chapdelaine, les fermiers, on s'entend, les fermiers, ça se lève tôt le matin, mais eux, ils se lèvent à midi pour aller dans les champs, pour aller labourer les champs, puis ensuite, ils finissent de labourer les champs à minuit dans le noir, parce que c'est vraiment... Tu sais, c'est un peu absurde comme exemple, mais ça nous donne une idée hein, que c'est à la base, il faut comprendre quelque chose pour le traduire. Puis, au-delà de la compréhension du mot, faut comprendre l'élément culturel qui s'y rattache. C'est aussi simple que déjeuner, dîner, souper. Si on passe à côté, là, on a des fermiers qui labourent leur champ dans le noir. Les poules, pour moi, il y avait vraiment faim dans ce Maria Chapdelaine-là.
Et là, on continue avec votre parcours, Marie-France.
Oui, donc...
Vous venez de mentionner vos études à McGill.
Oui, donc j'ai fini mes études à McGill en 2010. Après ça, j'ai travaillé... à la Bourse de Montréal, j'ai fait un contrat chez Pricewaterhouse, un cabinet comptable. Et puis, j'ai ensuite travaillé dans un autre cabinet comptable. Puis enfin, à la financière Sun Life.
Toujours en traduction.
Toujours en traduction ou connexe, adjacent, dans les services linguistiques, etc. Donc, j'ai évolué dans des domaines de traduction spécialisés en finance. Puis maintenant, j'enseigne la traduction économique et financière au bac et à la maîtrise. Puis quand les étudiants me disent « Ah, mon Dieu, Madame Guinette, j'ai peur, je sais pas si je devrais suivre votre cours, je sais pas si j'ai les connaissances, les compétences. » Puis moi, je leur dis « Ben, j'ai eu ma première job en traduction, puis je savais absolument rien. » Quand j'ai eu ma première journée à la Bourse de Montréal, c'était à la division de la réglementation en plus, fait que c'était comme volet... juridique, financier, aux ressources humaines, ils m'ont dit, Marie-France, vous travaillez donc maintenant à la Bourse de Montréal, est-ce que vous savez ce qu'on fait à la Bourse de Montréal? J'ai dit, ben, je sais pas, c'est une bourse, vous vendez des actions, je sais pas. Elle a dit, non, en fait, c'est pas des actions, c'est des produits dérivés. J'ai comme, c'est quoi des produits dérivés? C'est quoi ça? Donc, j'ai découvert la finance, le monde financier en travaillant dans ce milieu-là. Puis, au fil de mes expériences, j'ai acquis des connaissances, des expériences pratiques, etc. Mais pour moi, il me manquait toujours... la traductologie me manquait. Donc, la réflexion sur la pratique, sur les questions, les difficultés que je vivais, les échanges, hein, parce que on forme des traducteurs. Tout le monde a cette image que le traducteur, c'est... quelqu'un tout seul dans son petit bureau avec un dictionnaire ou plein de dictionnaires, mais c'est loin de la réalité. Les traducteurs, traductrices aujourd'hui, ils travaillent en équipe, des grandes équipes, surtout quand on pense, mettons, le contraste entre des études en traduction où on est, mettons, l'étudiante toute seule devant son texte à l'ordinateur ou sur papier ou quoi, c'est une chose. Mais quand on remet notre travail en tant qu'étudiante, on met notre nom dessus. Mais quand on travaille dans une entreprise, dans les services linguistiques, notre nom n'apparaît nulle part. Donc, moi, les questions d'agentivité, hein, le rôle comme « qui suis-je moi pour traduire ce texte, pour communiquer ce message », ça m'a toujours fascinée. Mm-hmm. Puis là, j'arrivais dans un environnement où je disparaissais. J'étais une partie du processus, une partie de l'élément. Puis je me dis, ben, il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui fonctionne pas à mon sens. J'ai décidé de prendre des cours à la maîtrise en traduction pour poursuivre ma réflexion sur ces questions-là. J'ai suivi deux cours en formation continue à McGill pour voir un petit peu, traduction économique et juridique, après ça, histoire de la traduction. Et puis, c'est là que j'ai rencontré la personne qui deviendrait éventuellement ma directrice de mémoire et de doctorat, Marie-Alice Bell, qui est prof à l'Université de Montréal. Et puis, l'histoire de la traduction, pour moi, c'était comme le summum de la réflexion parce que c'était non seulement les questions qu'on se pose aujourd'hui, mais c'est en fait les questions qu'on se pose depuis
toujours,
mm-hmm. c'est ça. Mm-hmm. Donc, je me disais, waouh, tu sais, au-delà de mon quotidien, moi, la traductrice qui se lève le matin, qui va travailler, qui travaille dans une équipe, puis dans l'équipe, ben, il y a la personne qui a écrit le texte, qu'on ne connaît pas, qui peut être aussi un groupe de 12 personnes qui se sont échangées. Donc là, il y a la notion d'auteur, de texte source qui est comme déjà mêlée un peu. Le texte aboutit sur l'ordinateur d'un coordonnateur ou d'une coordonnatrice qui va peut-être changer le formatage ou qui va séparer le texte entre différents traducteurs. Ensuite, je vais en traduire une partie. Ça va être collé au texte de d'autres personnes. Je m'appuie sur des mémoires de traduction qui existent pour me fournir de la terminologie. Je pose des questions à l'équipe de terminologie pour venir valider un peu mes trouvailles. Après ça, le texte part à la révision. Après, une fois que c'est révisé, ça revient au traducteur. Puis ensuite, ça va des fois à l'équipe de marketing qui va valider la. On s'entend là. On vient de toucher à une équipe de
beaucoup de personnes.
C'est beaucoup plus de personnes que ce fameux traducteur
isolé dans son cabinet.
oui. Puis quand l'image par excellence du traducteur isolé dans son cabinet, c'est Saint Jérôme là, celui qui a traduit la Bible vers le latin, puis a été en fait accusé d'hérésie. C'est pas aujourd'hui on dit c'est Saint Jérôme, mais dans le temps ça a été le plus gros scandale parce qui était-il lui pour rendre le texte accessible en latin, donc à un plus grand nombre de personnes. Puis ensuite, ben, on a poursuivi ce problème avec Martin Luther qui a traduit la Bible en langue vernaculaire allemande, en fait, pour que le commun des mortels puisse lire et comprendre, ou du moins sans nécessairement savoir lire, mais comprendre le message qui était dans ce fameux livre. Donc, il y a eu toutes sortes d'enjeux. Ensuite, donc, la traduction en langue vernaculaire, etc. Donc, on est dans cette réflexion-là, mm-hmm. puis sur des siècles et des siècles de réflexion, puis ça touche à toutes les cultures. Je donne toujours l'exemple de la Bible parce que c'est quelque chose qui est frappant. On se dit, ah, ben oui, c'est quelque chose qu'on connaît, tout le monde connaît un peu, ça existe depuis longtemps, mais après, on se dit, ben, c'est un texte source. Qui a écrit la Bible? Ah, ben là, attends, un autre problème.
Les questions commencent.
Puis quand on parle d'un original, ben c'est quoi l'original de la Bible? C'est en quelle langue? C'est quel auteur? À qui on peut poser des questions si on ne comprend pas un passage? Ou si on pense qu'on comprend, puis on l'interprète d'une certaine manière, puis on le traduit d'une manière, est-ce que ça veut dire qu'on a la bonne réponse? C'est quoi une bonne traduction? C'est quoi la bonne réponse? Donc, c'est là où on voit vraiment. C'est pour ça que la traductologie, dans le fond, peut prendre n'importe quelle de ces questions-là, puis en dire, bon, ben, si c'est ça la question, comment est-ce qu'on peut l'étudier? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vers qui on peut se tourner pour répondre à ces questions-là? Donc, on est là face à des siècles de culture, diverses cultures. On est aussi dans des questions d'impérialisme culturel, de colonialisme, de destruction de cultures minoritaires ou perçues comme minoritaires.
Il y a des jeux de pouvoir qui sont là aussi à travers la traduction. Vous parlez d'histoire, Marie-France, de siècles depuis la Bible et tout ça. Vous avez choisi de travailler sur le 17e siècle. Pourquoi ce siècle-là?
En fait, ma recherche pour ma thèse, c'était sur le 17e siècle, mais mon mémoire de maîtrise, c'était sur le 18e. Puis en fait, 17e, 18e. Donc, je vais vous parler un peu de mon mémoire de maîtrise, mm-hmm. puis pourquoi ça l'a mené à ce genre de travail pour le doctorat. Donc, à la maîtrise, j'ai étudié le texte qui s'appelle « Eurunico or the Royal Slave », qui est une nouvelle ou un petit roman, peut-être. C'est une terminologie qui ne s'applique pas vraiment, là, parce que c'était, bon, c'est un texte de 1688, écrit par Afra Behn, donc, qui est une auteure, une femme auteure anglaise, qu'on nomme souvent la première femme anglaise à vivre de sa plume. Ou peut-être la première femme tout court à vivre de sa plume. Virginia Woolf a écrit à propos d'elle dans A Room of One's Own en disant que tout le monde devrait aller porter des fleurs sur la tombe d'Afra Behn parce que c'est elle qui a ouvert la porte pour que les femmes puissent écrire et être payées pour écrire. Bref, Eurunico, c'est l'histoire d'un prince africain, bon, qui vient d'une région qui n'existe plus aujourd'hui, mais bon, bref, qui est pris comme esclave. En fait, je pense que son grand-père, il se fâche avec son grand-père qui est le roi, puis il se fait envoyer comme esclave en Amérique. Puis, Afra Behn, dans son personnage, qui est dans le fond potentiellement elle-même, là on n'est pas trop certain, rencontre ce fameux prince et finit dans son texte par en faire l'éloge en disant qu'il y aurait des problèmes avec l'esclavagisme parce que comment une telle personne aussi éduquée, etc., etc., pourrait-elle devenir esclave? Donc là, on parle d'un proto-abolitionnisme. Hein? On n'est pas dans un discours absolu contre l'esclavagisme. On est en 1688. Les enjeux sont très différents de ceux d'aujourd'hui. Mais quand même, Afra Behn a été la première personne à parler de ça. Et en le faisant dans le contexte d'un texte narratif fictionnel, a capté le cœur des Anglais, des Anglaises, beaucoup aussi, hein, c'était un roman, donc c'était lu par beaucoup des femmes. Ça l'a mené, en fait, ça a été comme un point de départ pour une réflexion sur l'abolition de l'esclavagisme, déjà en 1688. Puis le texte a été traduit seulement en 1745, je pense, en France. Donc, au début, quand j'ai commencé mon mémoire, je me disais, ah ben, c'est peut-être que c'est pas long, cette période-là, parce que peut-être que, tu sais, ça prenait du temps, puis comme, ben non, c'est pas ça du tout, c'est pas ça. Ça a été long avant que ça soit traduit, mais dans la réception, donc, dans l'original, le prince vit des tragédies à n'en plus finir, il finit démembré, c'est vraiment, c'est tragique, là, c'est difficile à lire. Puis dans la traduction française, il peut rester avec sa femme, il donne naissance à leur enfant. Le capitaine du bateau qui les avait pris en otage les ramène en Afrique où il devient roi, vécure heureux.
C'est plus du tout la même histoire.
Non, c'est pas la même histoire. Puis à la fin, il envoie des cadeaux au gouverneur en Amérique qui l'avait traité comme un esclave, etc. Donc c'est vraiment... Là, on est là, on se dit, ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé?
Dans un déni.
c'est vraiment phénoménal à quel point les textes sont différents. Puis, le comble, c'est que ce texte en traduction française a été super célèbre. Il a été un des 10 textes les plus lus des années 1750 à 1799 à peu près. Donc, c'est dans le top 10 des romans de l'époque. Comment on le sait? C'est dans des recensions de bibliothèques privées. Mm-hmm. Donc, autant que La princesse de Clèves, Eurunico, dans cette version absurde, était célèbre en France. Donc, il y a eu plein de rééditions, puis plein de réflexions là-dessus, puis une critique vraiment phénoménale. Là, on est dans les... Ben pourquoi? Comment ça se fait que c'est considéré une traduction? Si je fais ça, si mes étudiants font ça sur leurs examens, ça passera pas, là.
On est plus dans l'ordre de l'adaptation ou de la réinterprétation.
Oui, mais à l'époque, le concept de traduction n'était pas le même que celui qu'on a aujourd'hui. Donc là, on est dans encore une question de traductologie. Si on se dit, ben, je vais étudier la traduction, ben, c'est quoi la traduction? Ben, ça dépend, t'es où? C'est quand? On est où? On est à quelle période? On est dans quelle dynamique politique ou idéologique? Est-ce qu'on est dans une situation de censure? Est-ce qu'on est dans un débat idéologique religieux, par exemple? Donc, il y a toutes ces questions-là qui apparaissent.
Est-ce que c'était propre à cette nouvelle-là ou est-ce qu'à l'époque, la traduction était vue comme une espèce de réécriture très large, très ouverte?
Ben, à l'époque, on parle de cette période souvent, on appelle ça les belles infidèles, qui est une expression qui est reprise de Gilles Ménage qui avait dit « Ma maîtresse, elle est... » les traductions sont comme « Ma maîtresse, elle est très belle, mais elle n'est pas fidèle. » Donc, cette idée que... oui, donc mettons, au 18e siècle, on peut parler d'une tendance, une pratique de traduction qui n'est pas... exactement, mettons, juste. On est dans plus une espèce d'adaptation culturelle. Puis, dans sa préface, le traducteur dit que il a voulu adoucir certains éléments pour mieux rendre son interprétation du message de l'auteur, etc., etc. Donc là, on se dit, ben, OK, mais bon. Une autre expression que je peux citer, c'est « le traducteur a tous les droits dès qu'il joue franc-jeu hein? ». Donc, ça, c'est une autre manière de voir les choses. Mm-hmm. Donc, si un traducteur dit dans sa préface, « ben, écoutez, j'ai lu le texte, c'était pas si bon que ça, je me suis permis de l'adapter pour votre bienfait, vous, cher lecteur. » On se dit, mais c'est quoi ça? C'est qui se donne le droit de faire ça? Ou est-ce qu'on a le droit de faire ça?
Par rapport à l'auteur, c'est tout le lien à l'auteur, à la parole de l'auteur qui est remise en cause. Là.
Oui, ou si on considère ce que Roland Barthes a dit, ben, si la mort de l'auteur est réelle, ben, fidèle à qui? À quoi? À notre auteur? À notre lecteur? À notre vision du monde? Puis ça, c'est un exemple un peu qui frôle l'absurde tellement c'est différent, mais on peut, dans un contexte contemporain, on pourrait s'imaginer, si Annie, je vous donne un document, puis je vous dis « traduisez ça », puis là vous le lisez, puis vous avez un conflit idéologique, mais je ne signerai jamais un document qui dit une telle chose. Je vais le traduire à condition de changer tel mot, ou d'enlever les trois phrases suivantes. Est-ce que c'est acceptable?
C'est difficile. C'est une question qui est très difficile. Il y a dans l'exemple aussi que vous donniez cette idée que peut-être que la traduction française, bon, ben, dans la culture française ou dans l'espace francophone auquel cette traduction-là était destinée, le discours sur l'esclavagisme ou l'abolition de l'esclavagisme passait peut-être moins bien. Et il y a toute cette question-là aussi. C'est peut-être ça que ça révèle aussi.
Peut-être. Ça peut être des questions comme ça. Donc, ça peut être une question d'adapter le message aux gens qui vont le recevoir. Ça peut être parce qu'on a peur de comment les gens vont réagir. Si on signe une traduction, on se dira, je sais pas si mettons, le public français de 1745 est prêt à lire ça.
Est-ce que je vais mourir? Est-ce que ma vie est en danger pour avoir traduit
ça arrive.
De façon fidèle ou plus ou moins libre?
Oui, ça arrive. Ça dépend qui on a comme protecteur, hein, comme mécène. Donc ça, c'est une autre question qui vient dans la question tant aujourd'hui. Comme par le passé, les gens doivent... les gens sont intelligents, hein? On n'est pas juste des petites bêtes qui font du travail sans réfléchir. On sait bien que si on met notre carrière en jeu parce qu'on a traduit quelque chose, ben on va y penser deux fois. Donc, faut penser, OK, quel genre de protection est-ce que j'ai? Est-ce que je vis dans un pays qui me permet de signer un tel document? Est-ce que il y a quelqu'un qui va financer mon travail, qui va me payer pour faire ce travail-là? Est-ce que j'ai des protections financières, mais aussi éthiques, professionnelles, etc.? Donc,
avez-vous des exemples, par exemple, de choses comme ça, de risques pour un traducteur dans...
Oui, des exemples de risques, on peut dire... il y a toutes sortes de débats, je ne vais pas... Tu vois, c'est juste en parler, ça, ouais, ça peut...
Ça soulève
ben oui, plein c'est de dimensions. Ça, c'est je parle d'un exemple quand je donne mes cours de traduction. La question de l'éthique en traduction. À quel moment est-ce qu'on a droit de se désister? Ou à quel moment est-ce qu'on peut, est-ce qu'on dit oui à un contrat de traduction? Donc, un exemple. Par exemple, on reçoit un courriel, c'est l'ami de ma tante quelque chose, qui me demande de traduire un document. Elle dit, Marie-France, vous êtes traductrice, pouvez-vous traduire ce document pour moi? Est-ce que je dis oui avant d'avoir lu le document? Non.
Non.
C'est ça. Bonne réponse. Donc, d'abord, il faut ouvrir le document, il faut le regarder. Il y a des questions qu'on se pose. Est-ce que j'ai la capacité professionnelle? Est-ce que je comprends le texte? Est-ce que je peux respecter le contrat dans les délais? Est-ce que ça va me prendre 3 mois pour le faire, mais eux, ils veulent pour après-demain? Mm-hmm. Donc, c'est une autre question qu'on se pose. Dans tout ça, il y a la réflexion de est-ce que j'ai compris le texte? Donc, est-ce que j'ai l'expertise? Mettons, c'est un texte spécialisé. Mais il y a aussi la question... Est-ce que je veux que mon nom soit associé à ce document, à ce discours, par exemple? Il y a toutes sortes de manières de percer dans notre carrière en traduction. Je parle souvent aux étudiants de la possibilité de faire du bénévolat. Je dis toutefois de penser 2 fois à quel organisme ils veulent s'associer, mm-hmm, pour faire du bénévolat ou des contrats payés. Si à partir du moment où on traduit pour quelqu'un puis on le met sur notre CV, ben, on vient de révéler quelque chose à propos de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut révéler à propos de nous-mêmes sur notre CV? Ah ben là, ça c'est à nous de voir. Donc, typiquement, hein, on dit aux gens de ne pas parler de leur affiliation politique, de ne pas trop parler de leur affiliation religieuse, à moins que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas peur d'afficher. Moi, ce que je dis aux étudiants, c'est tout le monde, on est qui on est, puis c'est génial, puis on a nos croyances qui sont divergentes, etc. Mais est-ce qu'on veut révéler ça à propos de nous-mêmes sur notre CV en entrevue? Pas nécessairement, on se garde une petite gêne, etc. Donc, là, la question se pose, est-ce que je vais traduire, mettons, pour un organisme politique quelconque? Est-ce que je vais traduire pour un organisme qui est pro ou anti-avortement? La question se pose. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Pas nécessairement, mais la question se pose. Puis c'est là, c'est dans cette réflexion éthique personnelle qu'on voit en fait toute la question à la fois professionnelle, est-ce que j'ai les compétences pour le faire, mais aussi c'est là où l'agent que je suis, moi, la traductrice Marie-France Guénette, est-ce que j'accepte de traduire ça pour rendre service ou pour être payée? Est-ce que je veux que mon nom apparaisse dessus ou pas?
Parce qu'il y a un genre d'endossement de responsabilité dans ce qui est une transmission, finalement, de l'information, d'un texte.
Vous disiez tout à l'heure que le nom du traducteur n'apparaissait pas dans les équipes de travail, donc, par exemple, au gouvernement. Et puis maintenant, vous dites, est-ce que je veux que ça apparaisse dans mon CV? Donc, est-ce que ça voudrait dire que maintenant, les traducteurs signent davantage leur texte?
Non, ça dépend des contextes. Si on fait partie d'une équipe, donc si je suis embauchée pour faire partie de l'équipe de services linguistiques de compagnie X, mon nom n'apparaîtra jamais. Je vais être une employée de, mon contrat est signé avec l'entreprise, mais mon nom n'apparaîtra, ça ne sera pas traduit par Marie-France Guénette. Si je suis traductrice à la pige, que je prends des contrats ou que j'ai moi-même mon entreprise puis que je veux afficher sur le site de mon entreprise « voici nos clients », ben là, on entre un petit peu plus dans l'espèce de révélation de nos partenariats. Il n'y a rien qui nous empêche aussi de traduire des documents, mais de demander que notre nom ne soit pas affilié à ça. Mais il reste que la traduction, c'est un travail qui est quand même... Ça demande un grand investissement intellectuel et psychologique aussi. On lit le texte, on essaie de le comprendre, on se met dans la peau de l'auteur, la peau du lecteur. Est-ce que je suis capable, moi, de m'asseoir pendant des heures et des heures et chercher de la terminologie sur des concepts que je trouve plus difficiles? Ou comme, est-ce que je veux traduire quelque chose qui, pour moi, ressemble davantage à de la propagande que de l'information? Ben, c'est une question que je dois me poser. Il y a toujours quelqu'un qui va être là pour te payer pour le faire. Est-ce que ça veut dire que c'est un bon contrat? Pas nécessairement. C'est là qu'on voit un peu le danger. Ouais. Là.
Et en fait, c'est la même chose que pour le rédacteur professionnel. C'est exactement la même chose, vraiment. Ces questions-là, entre être à la pige, être au gouvernement, et puis accepter ou pas de, d'endosser quelque part le texte ou le message.
Oui, si je fais un lien encore avec l'histoire de la traduction, j'ai parlé de mécénat et de protection. Donc, c'en est là aujourd'hui, mm-hmm. la protection. On a l'ordre professionnel. Là, au Québec, c'est l'OTIAC qui nous protège en cas d'erreur ou de. On a une assurance responsabilité professionnelle, etc. Mais on a aussi, c'est ça, la possibilité de s'inscrire dans une équipe, faire partie d'une équipe pour pas que notre nom soit toujours... Donc, s'il y a une erreur, c'est les services linguistiques au sens large qui vont endosser. Ça sera pas juste la faute de quelqu'un qu'on pointe du doigt. Là. Mais si on est traducteur à la pige, on est responsable de notre image professionnelle, on est responsable de nos contrats, des échanges. Pour certaines personnes, c'est la seule manière qu'ils peuvent envisager leur carrière parce que ça leur donne beaucoup plus de liberté que de se faire dire aujourd'hui, vous allez traduire telle chose, puis n'oubliez pas que, finalement, vous allez rester 2 heures plus tard parce que tel document... Puis, pour certaines personnes, ça, c'est inconcevable, alors que pour d'autres, le poids, le fardeau de la responsabilité n'est pas, n'équivaut pas à la liberté d'être pigiste. Donc, il y a toutes sortes de manières d'envisager notre carrière, mais ces questions-là restent, même aujourd'hui.
Facteur humain est la chaîne officielle de balado-diffusion de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval. Pour plus de balados, visitez le flsh.ulaval.ca/web/diffusion.